L'actualité des Alpes du Sud et Olivier Dubois libéré.
Après 711 jours de captivité entre les mains d'un groupe terroriste au Mali, le journaliste français a été libéré hier. Sa sœur, O'Alpine, œuvrait depuis 2021 pour que les autorités françaises ne l'oublient pas.
La vente de carburant limitée donc dans les Alpes de Haute-Provence.
Jusqu'à vendredi soir, pas plus de 30 litres pour les voitures, 120 litres pour les poids lourds, 43% des stations du département seraient touchées par une pénurie à la pompe. Face aux mouvements sociaux contre la réforme des retraites.
Alors pression à la pompe et pression sur les interrupteurs.
La centrale hydroélectrique de Serre-Ponçon à Rousset dans les Hautes-Alpes est bloquée depuis hier par des grévistes. Aucune production ne sort.
Allez, un peu de légèreté dans l'actualité avec la citadelle de Sisteron qui rouvre ses portes.
C'est le printemps, signe du renouveau aussi pour cet édifice emblématique des Alpes du Sud.
Et puis, de 5 hein, pour Arthur Baucher.
À 22 ans, l'handiskieur domine la compétition mondiale avec un cinquième gros globe de cristal pour le haut alpin. Et puis, en hockey sur glace, dernier match de Magnus pour les Diables Rouges de Briançon ce soir. L'occasion aussi de dire au revoir au capitaine Kevin Ligier qui prend sa retraite sportive. Ce sera donc la rétrogradation pour l'équipe la saison prochaine. Mais à quel niveau? C'est encore incertain. Météo.
Avec de la douceur et du soleil et un petit voile nuageux qui va arriver, mais pour l'après-midi sur nos deux départements, les températures, les maxi, elles s'échelonnent de 14 à 20 degrés. Olivier Dubois, le dernier otage français, a donc été libéré ce lundi.
On en parle dans l'actualité locale car sa sœur est O'Alpine. Elle se battait depuis l'enlèvement du journaliste au Mali en avril 2021 par un groupe lié à Al-Qaïda pour que son sort ne soit pas oublié. La pétition qu'elle avait lancée avait recueilli plus de 121 000 signatures, dont celle de l'acteur Omar Sy ou de la journaliste Élise Lucet. Début mars, le chef d'ACMI avait confirmé la détention du journaliste, laissant la porte ouverte aux négociations avec la France. Écoutez Olivier Dubois au micro de l'AFP à son arrivée à l'aéroport de Niamey au Niger hier.
C'est énorme pour moi d'être là, d'être libre. Je ne l'attendais pas du tout. Je voulais rendre hommage au Niger et à son savoir-faire en ce type de mission délicate. Et rendre hommage à la France aussi, à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Voilà, c'est court, il faut que je reprenne mes esprits, désolé. Je me sens fatigué, mais je vais bien.
Est-ce que vous avez une pensée pour votre famille, Olivier?
Ah bah oui, là je pense qu'à ça, j'ai un coup de fil normalement, m'a dit monsieur l'ambassadeur qui devrait être prévu. Et j'espère que... Voilà, enfin, j'attends ça évidemment, ça fait presque 2 ans que j'attends ça.
Les deux députés haut-alpins, Joël Giraud et Pascal Boyer, s'étaient également saisis du cas d'Olivier Dubois pour faire pression auprès du gouvernement. Ils se sont réjouis ce lundi à l'annonce de sa libération, donc après 711 jours de captivité.
La vente de carburant limitée donc dans les Alpes de Haute-Provence à partir de ce matin 8h jusqu'à vendredi 18h.
Le préfet Marc Chapuis a pris un arrêté. Essence, gasoil, éthanol ou GPL sont concernés. Les automobilistes ne pourront faire un plein allant au-delà de 30 litres, ce sera 120 litres pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes. Il est interdit également d'acheter du carburant dans des récipients transportables manuellement, type jerrycan. Une limitation qui ne concerne pas les véhicules de service public ou pour les entreprises assurant une mission de service public. Avec les mouvements sociaux qui touchent actuellement la région, certaines pompes à essence sont à sec. Si la distribution de carburant reste garantie dans plus de 57% des stations-service des Alpes-de-Haute-Provence, comme l'assure le préfet, il reste toutefois vigilant et invite chaque habitant à avoir un comportement responsable et civique. Quelques heures avant la prise de son arrêté, il avait été interpellé par le maire de Manosque, Camille Galtier, qui lui demandait de réquisitionner les pompes à essence pour les professionnels de santé. Notez que sur les Hautes-Alpes, 14% des stations connaîtraient des pénuries. Retrouvez sur alpin.com la carte des stations essence et l'état des réserves en temps réel.
Alors pression à la pompe des syndicats contre la réforme des retraites, mais pression également sur l'interrupteur.
Depuis hier, la centrale hydroélectrique de Serre-Ponçon à Rousset est bloquée. Aucune production ne sort. Les salariés des industries électriques et gazières ont clairement monté d'un cran leurs actions de contestation après la mise à l'arrêt de Géométhane à Manosque et de l'usine Enedis de Gap. Ce n'est pas un coup d'essai pour Sylvain Miralles, délégué syndical CGT Hydro-Méditerranée EDF. L'action est amenée à durer pour faire plier le gouvernement.
Jouques, on y est resté 3 jours, Horizon 4 jours. Et bon, cette semaine, c'est Serpenson et Jouques. Donc voilà, l'idée, c'est de bouger sur la Durance et d'être là où on nous attend pas, quoi. L'outil de travail, on l'a pris, ce qu'on dit, c'est qu'il est à la main des grévistes depuis 3 heures du matin. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans la centrale, on l'a mis à zéro. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Serpenson, il y aura 0 MW qui va sortir. Pareil que pour Jouques. Donc la volonté, c'est de mettre la pression sur l'entreprise EDF et à travers l'entreprise, le gouvernement, pour aujourd'hui en plus, jour du vote de la motion de censure, faire pression pour ne pas que ce projet passe. De toute façon, on a prévu de réunir le piquet de grève suite au vote et de décider sur la poursuite ou non de la grève sur ce piquet de grève.
On est propos recueillis par Christophe Lourenceau. Alors que plusieurs rassemblements ont eu lieu hier à Sisteron, Manosque, Fort-Calquier et Malmoisson contre la réforme des retraites, eh bien, ce mardi, les mobilisés sont attendus à 7h30 devant le site de Géométhane à Manosque ce matin, puis à 17h30 au rond-point de Malmoisson.
Une réforme des retraites et l'Assemblée nationale qui a rejeté les deux motions de censure contre le gouvernement.
Alors qu'il aurait fallu au moins 287 voix pour empêcher l'adoption de la réforme des retraites et faire tomber Elisabeth Borne, la première ministre, 278 députés ont voté pour la motion du groupe Liot, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, dont les deux députés des Alpes-de-Provence, Léo Valter pour la NUPES et Christian Gérard pour le Rassemblement National. La seconde motion de censure à l'initiative du RN n'a réuni que 94 soutiens, dont celui logique de Christian Girard, mais pas celui du parlementaire de gauche, Léo Valter. Et tout logiquement également, les deux députés des Hautes-Alpes issus de la majorité, Joël Giraud et Pascal Boyer, n'ont pas voté ces deux motions de censure.
Et plus localement, pas de motion de censure pour parler du stationnement et de la circulation à Embrun.
Et non, la commune va présenter ce soir à la salle de la manutention le diagnostic et les préconisations suite à l'étude pour le centre-ville, mais aussi pour le plan d'eau. C'est la deuxième réunion publique sur le sujet après celle de décembre. Études, campagne de comptage, sondages, des questionnaires ont été menés depuis l'été dernier. Restitution donc cet après-midi, 17h30. Notez que la maire Chantal Emehoud espérait mettre en place le nouveau calendrier de circulation et de stationnement d'ici l'été.
C'est le signe du renouveau, des beaux jours qui arrivent, du printemps. En quelque sorte, la citadelle de Sisteron rouvre ses portes au public après sa pause hivernale.
Une plongée sur 8 siècles d'histoire, des remparts, un chemin de ronde, un escalier souterrain ou encore un donjon. Les trésors de cette citadelle ne manquent pas pour ce monument historique classé. Depuis une soixantaine d'années, l'association Art, Théâtre, Monument œuvre à la conservation et à la valorisation de ce site. Écoutez le président Jean-Louis Ré.
La citadelle a été bombardée en août 44. Il y a eu énormément de dégâts et depuis une soixantaine d'années, il y a une association, donc Art Théâtre Monument, qui ont reconstruit à l'identique tout ce qui était démoli et aujourd'hui c'est un des plus beaux bâtiments du 04. Les gens qui arrivent par le sud de Sisteron ne peuvent pas s'imaginer que c'est aussi grand que ça, puisqu'on ne voit du sud qu'une petite partie de la citadelle, qui s'étend en fait sur une partie nord. Et l'ensemble de la citadelle fait en gros 10 hectares. Donc vous voyez qu'il y a de quoi cheminer. On a deux nouveautés. Premièrement, on a reconstitué un pont-levis à zigzag qui est la seule reconstitution, elle est unique en France et peut-être même en Europe d'ailleurs, de ce pont-levis-là, de ce mécanisme-là. Et puis jusqu'en juin, la citadelle se met au vert puisqu'on aura un éco-pâturage avec des moutons dans la citadelle. Ces dernières années, on a en moyenne 80 000 visiteurs par an. C'est vraiment un des premiers sites, sinon le premier site du 04.
Et nouveauté cette année, hors juillet et août, des visites guidées seront proposées les mercredis et les dimanches. Notez que la citadelle sera ouverte tous les jours jusqu'au 12 novembre. Plus d'informations sur le www.citadelle-de-sisteron.fr.
Alpin Sport. Alpin
Sport. Et 2-5 pour Arthur Bocher.
À tout juste 22 ans, le haut alpin d'adoption continue de garnir sa salle de trophées XXL avec un nouveau gros globe de cristal décroché ce vendredi à Cortina en Italie. Le brillant sonnet domine de la tête et des épaules le handiski mondial car il ajoute à ce cinquième sacre deux autres petits globes en slalom et en super G.
Et puis clap de fin pour les Diables Rouges et leur capitaine.
Dernier match de la saison de Magnus ce soir 19h30 à domicile face à Chamonix. Ce sera l'occasion de dire au revoir au capitaine de l'équipe depuis 6 ans, Kevin Higier, qui prend sa retraite sportive. Il deviendra le nouveau directeur de la piscine et de la patinoire. Quant à l'équipe de hockey briançonnaise, après 7 victoires et 42 défaites dans cette saison, ce sera forcément la rétrogradation la saison prochaine. Mais reste à savoir si ce sera la D1 ou un échec l'échelon plus bas en raison des exigences financières de la Fédération de hockey sur glace pour trouver le potentiel remplaçant dans l'élite. Écoutez Christophe Lapointe, manager général des Diables Rouges.
Les deux clubs qui ont fait leur demande administrative pour monter en D1 sont Nantes et Marseille et ne pourront pas être champions de France. Il y a des choses qui vont certainement se déterminer dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, officiellement, il n'y a pas de descente sportive. Voilà ce que je veux dire. Après que nous, effectivement, rester en manus avec le même budget, je pense que c'est effectivement pas quelque chose de jouable. Après, c'est les actionnaires qui décident. Mais par rapport à ça, si on peut pas, effectivement, c'est de descendre en D1, de jouer les premiers rôles en D1 et de faire de la formation. Mais aujourd'hui, voilà, il n'y a rien de défini. Si nous, on demande obligatoirement un descend dès que les dossiers de Nantes et de Marseille ne sont pas acceptés, il n'y aura pas de place en D1, donc on peut se retrouver en division 2. Et pareil, s'il n'y a personne en D2, se retrouver en D3.
Dernier match de Magnus donc ce soir pour les Diables Rouges dans l'antre de René Froger. Le club espère qu'il sera davantage plein qu'à l'accoutumée pour saluer une dernière fois Kevin Higier sous le maillot des Rouges. Coup d'envoi à 19h30.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.